Le voilà, nous l'avons trouvé. Vite, attendons-nous. Les conditions parfaites ne seront pas réunies éternellement. Olivier, chope-le par les épaules. Robin, attrape les pieds.
Oui, maître.
Bah, c'est dégueulasse. Bon, ça fait combien de temps qu'il est calanché, le machin?
Oh, à peine un petit mois, ça va.
Oh. Ok, bon, c'est quoi le plan exactement?
C'est facile. On lui plante des électrodes un peu partout, on connecte tout ça à la ferme de rendu et normalement, la surcharge électrique devrait le ramener à la vie.
Hein? Mais on n'a pas besoin de la faune, un truc comme ça, alors?
Oh non, non! La farm tourne à fond ce soir, tous les compteurs font des heures sup. Je te prie de me croire, on n'aura jamais autant de puissance avec un simple éclair.
D'accord, je vois. Mais... quand même. Je me demande si c'est bien correct, tout ça. Je veux dire, sur le plan éthique, sans même parler du plan légal... est-ce qu'on ne serait pas en train de défier la nature dans ce cas-là de plus sacré? Qui sommes-nous, pauvres âmes chagrines, pour briser ainsi l'ordre naturel des choses?
Pardon, tu disais?
Mais c'était quoi ça?
Voyons voir, il est 20h, ils ont dû recevoir leur dîner et tous lancer un rendu en même temps. Oui, c'est ça. Bon, voyons voir si ça a marché. Hein. Sacha? Tu nous entends?
Ah la vache! Ça lui a bien cramé la barbe, hein!
Tu dis quoi?
Ouais, non, on comprend rien. Olivier, donne-lui de l'eau.
Ok.
Mais pas comme ça, enfin! Le gars était mort il y a 30 secondes, fais un peu gaffe! Non, attends, je crois que ça lui fait quelque chose.
Donc, vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on va vous parler de Frankenweenie.
Hé, hey, rapido! Where is Mo? T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Lofi, je suis content.
Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui ressuscite l'animation, animé par des animateurs. Aujourd'hui, pour célébrer l'Halloween, on vous parle de Frankenweenie, un film d'animation en stop motion de 2012 réalisé par Tim Burton, tourné au studio Three Mills à Londres et produit par Disney. C'est une adaptation en version longue du court-métrage du même nom, réalisé également par Burton en 1984. Au doublage, nous retrouvons VF Henry Bungert qui double Victor Frankenstein, Kelly Marot qui double Elsa Van Helsing et Raphaël Moutier qui double Suzanne Frankenstein, la mère. Et je note aussi qu'elle fait le doublage de Yennefer dans The Witcher 3. Ça m'a fait marrer parce que j'avais reconnu sa voix. Notons que le film a été nommé en 2013 pour le Golden Globes, le BAFTA et l'Oscar du meilleur film d'animation, mais n'a jamais remporté aucune des prestigieuses récompenses. Avec moi aujourd'hui pour parler du film, Robin.
Bonjour.
Ça va?
Ça va et toi?
Ouais, grave. Et attention, là, celle-là, je l'ai préparée.
Bonjour, ici Montréal. Les Français parlent au français. Est-ce que vous me recevez?
5 sur 5. Cela dit, j'ai presque pas besoin de le faire parce que moi, j'ai aussi le nez pris, mais ouais. Sans les doigts.
Ça va? Revenu d'entre les morts, Sacha.
Ouais, depuis le pays de France. Et le monde des vivants.
Ça va?
Ça fait plaisir de te revoir dans ce podcast. Tu nous as manqué.
Est-ce que ouais. L'hexagone est toujours hexagonal?
Je sais pas, j'ai pas mesuré.
Ah merde.
Mais je peux y aller si tu veux sur les routes.
S'il te plaît.
Là, la vie est chargée, j'ai pas le temps. Mais je prendrai le temps.
Et pas des ratoums parce qu'on fait pas d'erreur.
C'est un nouveau format, la saison 2, il n'y a plus d'erreur.
Exactement.
C'est, c'est extra prétentieux maintenant.
C'est ça, on a gagné du galon. Mais du coup, résumé du film par Sacha, puisque bon, tu es de retour, tu croyais pas que t'allais y échapper.
Allez, ça me fait plaisir. Alors, c'est l'histoire d'une personne qui perd un ami très proche. Et qui, via des recherches un peu scientifiques et pointues, finit par découvrir la manière de ramener cette personne, en fait, qui était très loin, mais il arrive à la ramener. Et du coup, il est très content que cette personne ait pu revenir. Mais ça intéresse d'autres personnes qui ont perdu des personnes. Comment ça fait beaucoup
on
de personnes
on dirait un résumé à la Romain dur. Hein.
Qui a perdu une personne, et bah du coup... Il y a les autres personnes qui veulent ramener des personnes, lui font du chantage à la personne qui a perdu une personne pour ramener cette personne et gagner un prix.
Ouais, bref, c'est voilà. Frankenstein quoi.
Personne n'a rien compris.
Oui, super, mais bon. Parfait. Bon, merci Sacha. Votre avis sur le film, s'il vous plaît.
Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle ?
Robin.
La première fois que j'ai vu ce film, c'était à Halloween en 2013.
Bah ça alors ? C'est bizarre.
C'est fou. Il y avait la séance de minuit qui était gratuite par le cinéma, donc on y est tous allés. Et déjà, à cette époque-là, j'avais trouvé qu'il y avait eu quelques longueurs. Alors après, on était déguisés et tout, il y avait un peu l'ambiance, c'était cool. Mais en le revoyant, en fait, à la base, c'est un court-métrage qui dure 30 minutes. Et ben, en tant que court-métrage de 30 minutes, c'est très bien. Il ne fallait pas non plus vouloir pousser le format. Et du coup, après, ils l'ont passé en animation, parce que le court-métrage, à la base, j'y reviendrai plus tard dans mon point, il est en live avec des acteurs et un vrai chien. Et là, le côté animation, ça permet un petit peu de pousser plus les caractères design et tout. Il y avait des cool trouvailles. C'est vraiment Tim Burtonesque, comme on dirait. Vraiment, là, on a toute son essence dedans. Mais c'est trop... le troisième acte est beaucoup trop long et complètement... t'y crois pas. Donc, j'ai un peu eu du mal. Au bout d'un moment, 1.5, tu vois.
1.5, tout à fait. Cool. Et Sacha, t'as pensé quoi du film ?
Ah, Jean, tu vas être tout seul contre deux personnes, je crois.
Peut-être.
Tout seul contre... pas le gramme plat, mais un truc de fou. Et pourtant, j'ai adoré Tim Burton quand j'étais...
C'est le rhume, ça. C'est remonté au cerveau.
Ouais, c'est ça. C'est le rhume qui a tout englué. Non, parce que je l'ai vu avant d'avoir le rhume. Non, je me suis fait chier de bout en bout. Enfin, chier, non, c'est pas chiant, mais il n'y a rien qui... Il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de truc qui... Il n'y a rien.
Pour être vulgaire, il y a rien qui fait bander, quoi.
Tu veux dire que la magie de Disney n'est pas là ? Je ne comprends pas.
Voilà, Kiki, rien qui fait bander, exactement. Mais en vrai, j'avais pas mis le doigt dessus jusqu'à avant que tu le dises, Robin, mais c'est vrai que c'est un long métrage qui a été tiré, tu sais, genre une pâte à pizza trop petite. Puis t'as plus de convives et t'as plus de...
Est-ce qu'on peut citer Bilbon Baggins, Bilbon Saké ?
Ah putain, sinon oui, aussi
comme une
pas
tarte, comme une tartine trop grande avec un trop peu de beurre.
Exactement, exactement. Et du coup, ça, on sent les longueurs, je trouve. Après, il est magnifique, genre l'anime, il y a des plans qui m'ont troué le cul, mais il y a des références dans tous les coins. Du coup, c'est rigolo quand tu regardes un peu de films d'horreur et un peu d'histoire du cinéma.
Surtout
c'est rigolo,
si t'as vu Frankenstein et que tu connais tout le lore qu'il y a autour de ça, mais ouais.
En plus, et que t'as vu les vieux films, mais sinon, un peu encéphalogramme plat.
Et toi, Jean ?
C'était sympa. Non, en fait,
on est 3 contre 1, 3 contre le film.
Ouais, c'est ça. En fait, je suis pas un méga fan ou un méga adepte de l'univers de Tim Burton.
Quoi ? Ok, je décage. Bonne journée, c'est la fin de ce podcast.
En fait, moi, le film que j'ai préféré de lui, c'est Big Eyes. Et ça n'a rien à voir avec
sa filmographie. C'est son film le plus ancré dans la réalité, en
voilà,
plus.
Voilà, et moi, j'adore ce film, j'ai trouvé excellent. Et j'ai trouvé l'histoire super cool. Ça n'a rien à voir avec le reste.
Attends, t'es en train de me dire que tu n'as pas aimé Dumbo ?
Non, c'est Dumbo, j'aime bien.
J'ai pas vu Dumbo.
Dumbo, c'est cool. Mais... Ah non, tu veux dire le...
De Dumbo, de Tim Burton.
Ah non, celui-là, non, c'est de la grosse merde. Non, mais ça, c'est, oui. C'est une honte, ce film. Non, je vais parler du vieux. Non, j'adore, mais j'étais là, c'est pas Tim Burton, il était pas né. J'ai bugué pendant un moment.
Là, je te parle de Tim Burton. Okay.
Il était Diranim. Il était Diranim sur celui en 2D.
J'ai trouvé ça sympa parce que la relation avec le chien, là, et tout. Moi, j'ai pas vu le court-métrage. Par exemple, mais la relation avec le chien là et la façon pourquoi il le ressuscite, c'est vraiment, tu sens qu'il a compris l'œuvre originale, donc il a bien fait ses devoirs, ça c'est bien. Après et
il
après
image...
l'œuvre originale Frankenstein, le
oui,
roman.
Oui, le roman, ouais. Ou le côté pourquoi c'est qui le monstre en fait dans le roman. Bon, bref, on en reparlera après. Et
là, je vois pas où tu veux en venir.
En gros, c'est que le monstre dans le docteur Frankenstein, c'est le docteur, c'est pas la créature.
Ah oui, ah oui, ok, d'accord.
Et ça, je vais revenir en faisant sa bio parce que c'est très important dans sa vie.
C'est pour les mauvaises raisons. Et c'est ça, en fait, c'est les autres gamins, ils ressuscitent leurs animaux pour les mauvaises raisons. Et quand tu sais, il y avait plein de trucs cool dans le film, comme tu dis, il y a plein de références. Et quand la séquence finale commence où ils ressuscitent tous leurs trucs, il y a des twists de ouf. Genre le chat aux chauves-souris, j'ai trouvé ça cool, tu vois, je fais ah c'est trop bien, c'est une bonne idée, et voilà, qu'il soit pas juste ressuscité en mode je me demandais ce qu'ils allaient faire, et en fait ça démarre bien et ça finit genre putain, c'est vrai que c'est long quand même.
Ouais, le troisième acte
est beaucoup trop long, et tout le film je me suis demandé, parce que j'ai vu le château Disney au début, je savais pas que c'était un Disney, et tout le film je me suis demandé elle est où la couille, il est où Disney, c'est où que Disney va foutre sa patte, et bah c'est tout à la fin quand le chien ne meurt pas.
Ouais.
J'étais là, ça c'est 100% Disney.
Parce que c'est dans le court métrage original. Dans le court métrage original, c'est
que c'était Disney qui l'avait
censuré. Le chien, il est au milieu de toutes les bagnoles et avec les batteries, et il rebranche le chien et c'est comme ça qu'ils leur font vivre. C'est dans son court métrage de base.
Ah ouais, tu vois, c'est moins gore quand même, mais bon, ok. Oui, je me cherchais la censure Disney quand même à chaque fois.
Dans mes notes, j'ai explicitement marqué « Fallait pas le ramener à la vie une deuxième fois, point. » Du coup, ils l'ont ramené.
Oui, c'est ça. Ouais, en fait, la fin, et moi, j'étais là, bah, s'il est mort, en fait, ça aurait été beaucoup mieux en termes d'écriture et en termes d'acceptation et de continuer sur le deuil. Et il y a une vraie leçon, en fait. Et là, il n'y a pas de leçon, c'est juste naze.
Donc la fin, encore les mêmes erreurs.
Bah, la fin, c'est super naze, j'ai trouvé. Le reste du film, c'était plutôt OK. Ouais, il y a des longueurs. La photo est très belle.
Ouais.
Je trouve la photo vraiment superbe. Et je trouve les designs de, pas tous les persos, mais la plupart des persos, genre le chien, le professeur, Edgar, je les trouve excellents. Ils sont vraiment très beaux.
Il y a beaucoup de clichés dans les personnages. Hein. T'as l'Asie de service.
Ah, alors lui,
le
là, je
voisin.
Veux même pas en parler parce que le doublage français, vous l'avez vu en français ?
Moi, je l'ai vu en québécois.
Non, je l'ai vu en anglais.
Ah mon dieu, le doublage français de ce
je
personnage.
Sais pas, ils lui ont mis un accent.
Ah, bah, ils lui ont mis un accent chinois méchant de Tintin. Hein. Et j'étais là. Attends, et là, j'ai regardé, j'ai fait, mais il est sorti quand ce film ? En 2012.
Ben, dans la version québécoise, il a un accent, enfin, québécois léger, quoi.
Ouais. Non, mais là, c'est Mette Tintin, quoi. C'est vraiment comme ça.
C'est rien. C'est juste une histoire de vous couper la tête.
Ah ouais, c'est vraiment, on aurait dit, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi?
C'est un poil chaud, ouais.
C'est un poil méga chaud raciste.
En anglais du aussi, coup, il a un accent anglais. Ouais. Il a un accent horrible, ouais.
Mais ouais, mais tu sais, c'est genre, c'est hyper cliché, puis c'est mal fait en plus.
T'as ça, t'as le voisin, le gros voisin qui veut être maire et tout ça. T'as le mec.
Lui, il me fait penser au businessman dans Le Petit Prince.
Oh, de ouf!
Ah putain!
Ah, mais oui, tellement! C'est vrai, purée.
J'ai bugué dessus, j'ai fait.
Et il ressemble extrêmement aussi au daron dans Les Noces Funèbres, les parents.
Ah ouais, alors oui, il y a plein de trucs des Noces Funèbres où je me suis demandé, parce que le personnage principal, il s'appelle Victor aussi.
Ouais, mais c'est tous ces persos.
C'est la même tête.
J'y reviens juste après, c'est la petite théorie.
Bref, voilà, sympa sans plus, et la fin, c'est de la merde. On peut passer à la potion magique.
Non, au coup de génie.
Au coup de génie, putain.
Il est fatigué.
C'est brillant, brillant, brillant. Des génies, allez, t'as plus.
Hey, troisième épisode de la journée, c'est parti. Mais c'est Sacha qui commence.
Waouh! Et ben.
la motive, quoi.
Non, mais il y a plein de moments mous dans ce film. Et un des personnages qui est le plus fun et le mieux écrit et qui a des scènes les plus rigolotes, c'est le professeur de sciences.
Ouais, de ouf.
Et du coup, bah, le moment qui m'a arraché le meilleur sourire, c'est la première fois où il le voit. Parce qu'il a un nom à coucher dehors déjà. Et que son explication de l'électricité, comment ça fonctionne. Qui est scientifiquement véridique, enfin qui a l'air scientifiquement plausible, je ne connais pas, mais ça a l'air d'être ça de ce que je me souviens.
Oui, mais c'est vachement bien fait
physique.
Pour les enfants, en fait.
Avec une comparaison sur l'immigration, la politique d'immigration américaine, il fallait franchement la sortir et elle marche super bien.
Mais qui
bien,
s'applique
en fait.
À son
c'est
propre cas aussi, parce qu'on se rend compte qu'il
a un accent en plus.
Bah, oui. Qui vient d'un autre pays, qu'il est immigré, alors on ne sait pas exactement, mais on suppose genre la Pologne ou un truc comme ça.
Moi j'entendais un. Ouais, ça avait l'air d'être des accents d'Europe de l'Ouest, surtout que son visage et son design, il est basé sur l'acteur qui a incarné Dracula.
Mais il est basé sur l'acteur qui le double, lui.
Oui, c'est ça. C'est celui qui a incarné Dracula, non ?
Ouais, il a joué c'est Dracula, ça. Ouais.
Ouais, je crois. Mais du coup, c'est la seule scène qui m'a fait marrer. Non, après, il y a celle où il parle devant tous les parents des élèves, là.
Ah ouais, ça, c'est... Ouais. Mais c'est... j'étais mort de rire.
Celle-là, elle est bien fun aussi. Et puis après, voilà, il a quoi ? Il a une autre scène aussi sur le parking. Ah, celle-là, par contre, j'ai détesté.
C'est celle que j'ai bien aimée, justement. Mais j'hésitais avec celle que t'as prise, parce qu'elle est cool. Enfin, toutes les interventions du prof, moi, je les trouve très bien.
Mais toi, la tienne, Jean, c'est celle sur le parking.
Parking, ouais, sur le parking.
Ouais, bah on va en reparler parce qu'il y a un truc qui me fait tiquer dans cette scène que j'arrive pas à mettre le point dessus. Mais ouais, voilà, du coup, parce que c'est le seul personnage attachant et qui m'a fait marrer. Non, il aurait pu y avoir aussi quand la tortue se transforme en kaiju.
Parce que, ça, c'est vraiment drôle.
Quoi ? Pourquoi ?
Parce qu'on prend ce qui reste. C'est vraiment ça, quoi.
Non, attends, après j'ai découvert un lien entre Frankenstein et les kaijus, je vous expliquerai tout à l'heure.
Ah ouais.
Ça pourrait être une référence ultra obscure, mais alors giga obscure.
Si tu me dis qu'il y a un film sur les deux ensemble.
Attendez, mais je vous ai fait un quiz sur les adaptations de Frankenstein, vous êtes pas prêts. Hein.
Ah merde, il y a deux quiz, j'ai un quiz aussi. Bon, c'est un petit quiz. Mais...
Ah cool.
Ah, moi aussi, il y a un petit quiz.
Allez, trois quiz. Bon, bah, voilà. On arrête et on fait un podcast question pour un champion, quoi.
Moi, je suis nul à chier avec l'histoire de Frankenstein. Hein. J'ai vu l'œuvre originale, puis c'est tout, hein. Pas beaucoup vous aider. Enfin bref, on écoute ton extrait, Sacha.
Let's go.
Le nuage est en colère, oui. Il crée l'orage. Et les électrons se disent « Je te quitte, alors. Je vais sur la terre des opportunités. » Et le sol dit « Ah oui, car j'ai besoin d'électrons connaissant les sciences. Tout comme vous. Vous tombez à point. Oui, venez !» Alors, des deux côtés, on dresse des échelles. Cet homme sort dehors pour regarder l'orage Il ne voit pas les échelles invisibles. Quand les échelles se rencontrent, eh bien... BOUM ! Le circuit est complété. Et là, tous les...
Yes, moi, j'aime beaucoup ton accent et sa façon d'enseigner, en fait. Parce qu'il a l'air de faire peur, en plus, avec son design, quand tu le vois au début. Et en fait, tu te rends compte qu'il est, super passionné par ce qu'il fait et par transmettre le savoir, en fait.
Même ses dents et tout, là, son design. Ici, c'est vraiment des dents carnassières, hein, vraiment. Ouais. Donc ça fait peur aussi, mais il a vraiment un fond très doux, alors que visuellement,
pas du tout. Dans le chara-design, t'as un écart entre son pif et sa bouche qui est hyper perturbant, oui. Parce qu'en fait, tu peux pas le regarder dans les yeux et regarder ses lèvres en même temps. T'es obligé de switcher entre les deux, et c'est un côté très... ouais, des fois, t'es juste focus sur sa bouche et ça le rend particulièrement agressif.
Ouais, c'est clair.
C'est qui ensuite? C'est Robin.
Moi, c'est classique. C'est quand il ressuscite son chien. Bon, là, vous allez me dire, ah, il est trop bien, super. Un gars, il a pris le plan le plus emblématique du film. Le mec, il raconte ça, mes couilles. Parce qu'en fait, j'étais vraiment dedans. Je crois que c'est vraiment la partie du film où, en le regardant, je m'étais là, je fais, ah, la musique, elle est trop bien. Puis, oh, ouais. L'ambiance, puis les petits ventilateurs qui commencent à bouger, puis les bruitages. Puis, waouh, l'électricité, elle arrive.
Ouais,
puis,
les éclairs, c'est
les trois,
bien fait,
puis, mais les trois trucs. Puis, t'as la caméra qui zoome sur le chien. Puis, d'un coup, là, t'as des étincelles qui lui tombent au sol. Mais on dirait des vrais stock shots d'étincelles. Celles qui sont juste en noir et blanc posées sur la stop motion, et j'étais vraiment dedans. J'ai fait ah, waouh, c'est super! Voilà, donc c'est vraiment pendant ce moment là, je me suis oublié vraiment et je me suis vraiment mis là-dedans. J'ai fait waouh, c'était trop bien. Toute la séquence vraiment où il ramène son chien du cimetière, là il se cache derrière le canapé avec ses parents, il le traîne dans le grenier et puis il commence à ramener tout ça. Donc mon extrait va être pas très radiophonique puisque c'est principalement de la musique et des bruitages, mais toute la mise en scène quand il met ses lunettes, le costume, puis t'as le voisin qui le regarde au loin. Voilà, moi je me suis vraiment perdu là-dedans, et c'est vraiment quand cette séquence s'est arrêtée, j'ai fait oula, voilà, ouais, c'est vrai. Donc j'ai vraiment eu c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette séquence, c'est celle qui m'a le plus fait vibrer en gros. Donc, voilà.
Ouais, moi j'aime bien quand il met son petit costume aussi de scientifique là. Ça me fait, je sais pas pourquoi, ça me fait toujours marrer dans les films comme ça quand les gamins ils se déguisent comme des adultes, ils ont l'air super sérieux d'un coup, et c'est trop mignon en fait.
Ouais, avec la petite blouse, avec les boutons et tout, là, trop trop bien. Donc,
non, en plus, même pas, c'est une chemise qu'il met à l'envers.
Ouais, c'est oui. Ça. Non, c'est vraiment des scraps, c'est tout. En plus, ça n'a aucun sens. Son montage, il a récupéré plein de trucs. À l'aquarium, tu sais pas pourquoi.
Mais... c'est conducteur, okay. C'est de l'eau.
Ouais, mais au final, il sort juste le chien sur le toit et il se fait frapper par la foudre direct. Donc tu fais ok.
Ouais, mais il fallait bien faire tourner les ventilateurs.
Ouais, attends,
Peut-être qu'il emmagasine de l'énergie quelque part. Tu sais pas.
Ouais, bah c'est après, très là, elle est fun cette scène, c'est qu'elle est archi cliché de toutes les scènes.
Ouais,
de,
c'est ça. Mais j'ai adoré en fait qu'ils aient joué le cliché à fond.
Mais version. Do it yourself, ouais, dans ton grenier ça, avec les trucs qui passent.
J'ai adoré qu'ils aient joué le cliché à fond et que voilà, moi ça m'a vraiment porté. J'ai fait ouais, c'est vraiment si j'avais été enfant, j'aurais dû reproduire ça, j'aurais fait ça avec exactement le même matériel.
Si c'était refait aujourd'hui, il aurait une chaîne YouTube pour. Alors aujourd'hui, je vous apprends à ressusciter votre chien.
Attends, avant de commencer la ressuscitation,
est-ce que votre chien est bien mort?
Mets un like, partage, subscribe à la chaîne.
Ça, abonne-toi, mets la cloche.
Donc,
En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de build-up, de tension de scène, je trouve que ça marche vachement mieux qu'après avec les monstres qui attaquent la ville.
Ouais, ça va trop vite le truc des monstres.
Celle-là, elle marche super bien, de la tension qui monte. On sait qu'il va ressusciter le chien parce que c'est le...
Bah,
c'est
le seul truc qui m'a fait marrer dans le truc des monstres, c'est le Colossus, là. Le hamster. J'ai été mort de rire. Il y a toute une scène à la Dracula et tout, au truc de momie, où tu vois une énorme tombe et tout, avec la tombe gigantesque. Et il sort,
il
y a une énorme ombre et tout, et c'est trop bien fait le jeu d'ombre et tout. Et en fait, c'est un micro hamster de merde qui se fait exploser ensuite.
Il crotte un corbeille dans son PQ.
C'est ça. Ben voilà, donc c'est parti.
Cool musique, cela dit.
Ouais, voilà, c'est ça, mais du coup, voilà. Et toi, Jean, du coup, c'était quoi ton coup de génie?
C'est un truc avec le prof
génie,
aussi.
C'est quoi que t'aimes dans ce film?
C'est un truc avec le professeur. Ce que j'aime, c'est le personnage
ça
du prof. Il n'y
avait
surtout.
Pas manqué, t'inquiète.
Non, clairement pas.
Ah oui, c'est vrai. Ah non, on va pouvoir discuter de cette scène en plus. Vas-y, déroule.
Et
déroule. Vas-y, je
donc,
là.
Le prof se fait virer, en fait, parce que. Je sais même plus comment on en arrive là, parce qu'ils ont vu qu'il y avait le chien qui était ressuscité.
Non, je crois que moi, il se fait virer juste après son discours. Quand
oui,
il
mais
dit,
pourquoi
moi...
est-ce qu'il y a le discours, justement? Il y a une réunion pour le critiquer, lui, et il
parce
fait
que,
un discours en les traitant tous d'idiots.
Ah, mais je vois, mais c'est, ouais, pas, c'est parce que.
C'est pas, science,
parce que le cours de science, il a traumatisé des élèves en
écrasant
la grenouille.
Non, oui, c'est ça, parce que. Non, il y en a un qui est tombé du toit, c'est quand le gamin il tombe du toit.
Ah oui, avec les bouteilles de gros là, avec les bouteilles de gomme, ouais. Mais c'est à cause de l'Asiate. Ouais. Tu lui dis, je suis bon, je suis bon.
France.
Ouais, c'est ça, ouais.
Bref. Et ouais, comme quoi, il part dans beaucoup de directions, ce film. Et donc, ouais, il se fait virer, et du coup, bah, il se casse. Et tu le vois prendre ses affaires, aller dans sa voiture sur le parking, de petite voiture de prof, là. Et t'as, du coup, t'as Victor qui va le voir en lui disant, mais monsieur, partez pas, vous êtes notre meilleur prof, blablabla. Et le gars lui dit, en fait, il va lui faire tout un speech en lui disant c'est bien que tu t'intéresses à la science, il faut plus de scientifiques. Moi, dans mon pays, on a plein de scientifiques, mais en Amérique, vous en avez pas assez. Et c'est un gros problème, et blablabla. Et du coup, Victor, il lui parle un peu de son expérience avec son chien. Ouais, je crois qu'il lui dit pas directement, mais en gros, il lui dit j'ai fait une expérience, ça s'est bien passé, mais j'ai voulu la refaire, et ça s'est pas bien passé. Et il dit, bah, t'as changé les variables, mais aussi, est-ce que tu l'as fait pour la bonne raison ? Il lui explique, ouais, la science, c'est pas que dans ta tête, c'est aussi dans ton cœur. Et il faut le faire pour les bonnes raisons. Il fait, mais les expériences, ça marche pas tout le temps. Et je trouve qu'il y a vraiment un beau discours, en fait, sur la science.
Moi, ce qui m'a surtout touché dans ce discours, c'est le final. C'est qu'il dit, la science, elle est pas faite pour le bien ou pour le mal, mais tu peux l'utiliser pour les deux.
C'est ça, exactement. La science, elle est neutre, elle est ni bien ni mal, c'est ce qu'on en fait, en fait. Et il y a vraiment une bonne explication, en plus, qui marche pour les enfants. Genre, c'est très métaphorique. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est con, j'aurais bien aimé voir ça, gamin, tu sais, ce genre de truc. Je trouve que ça peut intéresser des gamins pour la science et tout. Donc voilà.
Mais je trouve qu'elle marche pas du tout, cette scène. Il y a un truc dans le. Il y a un truc dans le déroulé des arguments du scientifique où j'ai l'impression que. Enfin, du professeur, j'ai l'impression qu'il y a une première partie où il t'explique un truc.
Je pense qu'ils ont coupé au milieu, ouais.
Dans la deuxième partie, il t'explique l'inverse. Genre, mais c'est plutôt. La science, ça se fait avec le cœur, faut avoir la passion, faut le faire pour les bonnes raisons. Et après, il te dit. En fait, la science, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de l'appliquer. C'est juste qu'il faut penser à l'appliquer de la bonne manière.
Oui, mais c'est ça.
Mais je ne sais pas. Je n'ai pas mis le point sur le problème sémantique de cette.
Après, je pense qu'il y a une
explication, mais il y a un truc qui ne marche pas dans ma tête.
Mais toi, tu l'as vu en VO. Alors, en tout cas, je ne sais pas. En VF, c'est peut-être mieux traduit du coup.
En VF, c'était vachement clair, je trouve. Il n'y avait pas ce problème.
Il n'y a pas trop de quiproquo. Il te dit, ouais, il monte sa tête, il dit, c'est pas là, c'est dans ton cœur aussi. Et en fait, après, il te dit, oui, la science en elle-même, c'est neutre, mais c'est toi ce que tu en fais.
La barrière des langues, Sacha.
Ouais.
Ou alors non, t'as pas compris parce que c'était en anglais.
Je l'ai pas entendu. Ah, le premier incident technique de la distance.
J'ai dit c'est pas compris parce que t'es pas en anglais. C'était en anglais.
Ah oui, ça doit être pour ça. Non, oui, dis donc, mon niveau d'anglais est parfait. Non, je pense que le problème c'est parce que au début il parle de genre la passion de faire des sciences et que du coup c'est pas super bien expliqué et donc moi j'ai cru comprendre en mode il faut faire la science pour les bonnes raisons. L'argument de la deuxième partie, alors qu'en fait il veut plus dire il faut avoir envie de faire de la science pour bien la faire.
C'est quoi, on va écouter l'extrait et comme ça on pourra se baser sur ce qu'on a entendu.
Ouais, mais j'ai raison.
La première fois tu n'es pas tout saisi. Les gens pensent que la science est là, mais elle est aussi là. La première fois tu as aimé ton expérience?
Oui.
Et la deuxième fois?
Non. J'avais très hâte d'en finir.
Alors tu as changé les variables.
Je l'ai fait pour de mauvaises raisons.
La science n'est pas bonne ou mauvaise, tu sais. Mais la science peut servir les deux côtés. Et ça, c'est pourquoi tu dois faire toujours très attention.
Alors? C'est monsieur sémantique?
Ouais.
C'est mantique ou c'est pas mantique?
C'est mantique ou pas?
Ouais, non. Non, c'est bof mantique. Hein. C'est
mantique. Bah, ouais, après, moi, la traduction, là, c'est la traduction québécoise.
C'est merdique.
C'est proche de la version française. Oui, j'aime bien, justement. Je trouve que le message est assez beau, quoi.
C'est sûrement moi qui me faisait tellement chier que je voulais chercher la moindre petite bête.
Je pense que peut-être j'irai les réécouter en VO pour voir. Mais c'est vrai que comme j'ai tout vu en VF, c'était pour moi, ça m'a pas
prochaine erratum, pas paru problème. Il est vraiment nul en anglais, il a rien compris.
Prochaine erratum, on s'excuse pour Sacha, il sera plus là. Bon, voilà. Ok, eh bien, je pense que c'est le moment de la potion magique.
Alors, gros Nébulix, c'est quoi que tu nous prépares, là, copain?
Et c'est Robin qui nous propose sa tambouille en premier.
Allez, c'est parti. Alors, attendez.
Oh, j'ai oublié de dire un truc, je peux te couper avant, histoire de faire ça n'importe comment pour mon retour.
Bah, évidemment.
Il y a juste une blague qui m'a trop fait marrer. Je le place là parce que les petits monstres de la mer, là, les singes, ouais, de, ouais. Les singes, ouais, de mer, je sais pas comment ils sont appelés en VF,
les, ouais,
ils les tuent avec du popcorn salé.
Oui.
Et là, je me suis dit, si le film se passait en France, c'est mort. Les monstres de mer, ils tuaient tout le monde parce qu'on n'aime pas le popcorn salé en France.
Tu as exactement,
on n'a que du sucré.
Moi, j'aime ça. Il y en a en France. Je vois pas le problème.
Attends, déjà, t'aimes pas Tim Burton. T'aimes bien le popcorn salé.
J'ai pas dit que j'aimais pas Tim Burton. J'ai dit, je n'adhère pas particulièrement à son univers.
Tu as ça à partir de cette
la
maison.
La déformation, quoi.
En chaîne, il est insolvable. J'aurais pas dû t'interrompre, mais excuse.
Tu veux le sol, tu veux insolvable comme du sel dans de l'eau.
Soluble.
Insoluble.
Pareil. Épisode très scientifique.
Ah ouais, non. Alors, moi, je vais vous faire un point sur Tim Burton. Donc, assez rapide. Tim Burton. Qui est, donc, moi, j'aime bien faire les petites biographies.
Ouais, d'habitude, c'est toi qui l'as fait, cette blague.
En fait, quoi tu parles. J'aime bien faire les petites bios et je vais mettre sa biographie en parallèle avec le projet. Avec Frankenweenie. Et pourquoi.
Et c'est un quiz, t'as dit.
Il y a un moment, il y a un petit quiz viteuf.
Alors, Wikipédia, Tim Burton.
Allez, c'est parti.
Toi, regarde, ouais, c'est vrai, t'es à distance, tu peux faire ça, toi.
Ah, le bâtard.
Ah ouais.
Alors.
Non, je vais te faire play.
Donc, Tim Burton est un animateur, scénariste et réalisateur. Il a un style graphique bien particulier et reconnaissable entre mille. Alors, Tim Burton est né en 1958 et a grandi en Californie, l'endroit rêvé pour un réalisateur comme lui. Oui et non. Tim Burton, dès son plus jeune âge, s'est toujours considéré comme un exclu de la société et de la famille. Son père essaye tant bien que mal de lui communiquer la passion pour le baseball, aka le film, et le contraint à y jouer, mais sans succès. Alors, dans sa solitude, il commence à développer son imaginaire pour s'y réfugier. Il se nourrit de films notamment d'épouvante et se sent connecté plus avec les personnages qui font peur que tout le reste du monde. Et il comprend, par exemple, voilà, Frankenstein, il se sent plus connecté. Il comprend que le monstre, c'est le scientifique et pas Frankenstein. Il commence donc à dessiner, laisse ses idées défiler sur le papier. Assez fourni pour devenir un book, il entre à CalArts. Donc CalArts, encore une fois, l'école de Disney. Il apprend là-bas l'animation et la réalisation d'un film. Et en sortant d'école, il se retrouve à...
Disney.
Pour bosser sur un film qui lui correspond exactement.
Rocky.
Ah non, c'est... Ouais, putain, c'est un pourri comme ça, ouais.
Taram et le Chaudron Magique.
Et voilà.
Non, Taram, c'est...
Il se retrouve à Disney, mais on peut se dire, mais attends, Disney, c'est pas du tout son style, mais en fait, il va très bien correspondre au projet puisqu'il va travailler sur Rocks et Rookie.
Ah, ok, c'est ça.
C'est une très mauvaise blague. Donc, il a commencé sur Rocks et Rookie. Et en fait, après, il s'est retrouvé sur Taram et le Chaudron Magique, qui, ça, c'est son style à 200%, beaucoup plus proche de son imaginaire. Il développe 200 concepts de monstres et de personnages qu'il propose à Disney. Tous furent rejetés. Et donc,
c'est trop
encore
sombre,
une fois.
Monsieur, ça fait peur.
Et donc, encore une fois, il se sent exclu. Alors, il leur demande de laisser s'exprimer afin de financer ses courts-métrages. Et donc, c'est là que va naître le petit court-métrage Vincent et Frankenweenie. Vincent, c'est un court-métrage en noir et blanc stop motion avec un petit garçon macabre qui a la même gueule que Victor dans Les Noces Funèbres et la même gueule que Victor dans Frankenweenie. Et Frankenweenie, c'est un court-métrage en noir et blanc mais en live action sur un chien qui revient à la vie grâce à l'amour de son maître. Disney a détesté les deux projets et vire Tim Burton. C'est ciao. C'est trop sombre et macabre, jamais ça marchera. Bon bah du coup...
Ils ont ah oui d'accord, à ce moment-là il y a détesté, ok.
Ouais, en plus nous on vient de faire l'épisode sur Disney, du coup on est calé sur les temporalités là. Du coup, ça le pousse dans la réalisation de films live action, et donc là, il enchaîne les succès. Est-ce que vous pouvez me citer quelques succès de Tim Burton ?
Bah, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais il a co-réalisé Les Trois Mousquetaires, Monsieur Jack.
Ouais, je parle de films live action.
Ah, live action.
Pee-wee Big's Adventure.
Ouais.
Ah oui, c'est vrai.
Mais c'était pas un succès. Le vrai premier succès, c'était Beetlejuice.
Ah bah oui, bah oui. Okay.
Il y a après le.
Après, Edouard Romain d'Argent.
Batman. Edouard Romain d'Argent, La Planète des Singes, Mars Attack, Sleepy Hollow et Big Fish.
Des singes, putain.
Et il y a Batman Forever.
Returns,
t'as raison.
C'est Returns.
Ouais, Returns.
Returns Forever.
Mais en fait, revenons à ses courts-métrages. En fait, les courts-métrages, dans sa vie, ça a vraiment été les blueprints de sa patte créative et ça va définir tout son univers pour tous ses films. La mise en scène, les caractères design, les formes et les couleurs et surtout sa façon de maîtriser à la perfection l'expressionnisme allemand qu'on retrouve dans toutes ses œuvres. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de l'art, mais l'expressionnisme allemand, ça date des années 20. Durant la Première Guerre mondiale, il y a les Allemands qui sont occupés, hein, pour une certaine raison. Et il y a beaucoup d'artistes indépendants qui se mettent à développer ce courant sur le côté. Et rapidement, ce qui définit très 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 brièvement, ce qui définit ce courant, ça va être la déformation excentrique des objets du quotidien, des ombres portées très prononcées, le noir et blanc, des courbes et des spirales très très fortes, et un anthropomorphisme. Un anthropomorphisme. abusé sur tous les personnages. D'ailleurs, petite anecdote, c'est grâce à Burton qu'on doit maintenant le fait qu'on puisse customiser les logos de production avant les films.
Ah, parce qu'il l'a fait en premier.
Il l'a fait en tout premier pour
Batman.
Parce
qu'il a demandé l'autorisation.
Il a demandé à Warner. Warner lui a refusé. Il a dit, les gars, je veux juste faire un blend. C'est le Warner, le logo de Warner, vous voyez, c'est l'espèce de gros Warner. Et t'as un ciel bleu. Et il a fait, je veux juste que le ciel bleu devienne noir. Et comme ça, on fond sur Gotham City. Et ça plonge directement le spectateur dans le film. Et c'est grâce à lui qu'on doit ça.
C'est pour ça qu'il y a tous les Harry Potter.
Tous les Harry Potter ont changé. Oh, wow. Et c'est pour ça qu'après, lui, t'as eu la Warner, la Fox, quand il a fait énormément d'argent, qui est sous la neige. Et c'est grâce à lui que ça, ça a commencé grâce à lui.
C'est cool.
Après, dans son travail, tout son univers est porté musicalement par Danny Elfman. Son acteur fétiche, c'est Johnny Depp ou Michael Keaton. Il s'entoure toujours des mêmes personnages et des mêmes personnes pour garder la même patte dans chaque film. Il garde un amour pour les effets pratiques sur le tournage et utilise très peu la CG jusqu'à récemment dans ses derniers films. Après le succès de Batman Beetlejuice, Disney le rappelle. Et il lui demande en fait de co-réaliser L'étrange Noël de Monsieur Jack avec Henry Selick, dont qu'on vous a déjà présenté pour James et la Pêche Géante. Bah justement, après ça, il continue à développer James et la Pêche Géante. Et bien que les films en animation 3D aient pris l'avantage sur le marché, lui, il continue dans la stop-mo, et c'est là qu'il va sortir Les Noces Funèbres. Jusqu'à l'adaptation de son court-métrage de ses débuts, Frankenweenie. Quand on se renseigne, on comprend que ce film, en fait, c'est sa vie à lui. Il a perdu son chien quand il était petit, et ça l'a beaucoup affecté, car il était exclus, c'était son seul ami. Son père voulait qu'il joue au baseball, et son père le pensait inadapté. Il pouvait pas ramener son chien à la vie, donc il l'a fait en fiction. Et en gros, c'est un hommage à son enfance et à tout ce qu'il a vécu, l'isolement, les parents qui veulent de la normalité, peu importe ce que ce mot veut dire. Mais en gros, voilà pourquoi ce film est très personnel, en fait.
Mais justement, par rapport à ses parents, c'est con, parce qu'au début, moi, il m'était vraiment sympathique. Tu sais, il regarde le film qu'il a fait avec lui, ils sont super encourageants.
D'ailleurs, c'est le même début que Paranorman, en fait.
Ouais, ouais. Oui, complètement. Oui, ça me fait penser.
Mais c'est ça aussi que je voulais dire, c'est qu'en fait, maintenant, si Tim Burton réalise moins, il y a son emprise partout, dans les Coraline, les Paranorman. Mm. On voit sa patte, elle s'est vraiment diluée dans plein de réalisations et plein de trucs comme ça, tellement c'est unique ce qu'il a réussi à mettre en place.
C'est vrai. Merci. Bravo. Bon point. Il y avait un quiz ? Non, c'est pas une question.
Non, je vous ai fait le quiz des petits films qu'il a sortis. Ah oui, c'est un petit quiz tout pourri.
Ok, Sacha, de quoi tu veux nous parler ?
Du court-métrage Vincent Price, il me terrifiait quand j'étais petit. Il était horrible celui-là.
Oui, horrible. Hein.
Ah oui.
Il était, je sais plus avant quel film. Bah, ça devait
être avant L'étrange Noël de Monsieur Jack, que je l'avais sur le DVD.
Ah putain, on le skippait à chaque fois avec mon frangin parce qu'on faisait des cauchemars sinon le soir même.
Ah ouais ?
Non, je voulais pas du tout vous parler de ça. Alors. Moi,
ça y est, le rhume dans le cortex.
Ayant vu que ce petit film faisait attrait aux références à Frankenstein, je me suis dit, je vais aller regarder la fiche Wikipédia de Frankenstein, parce que les points potions magiques, ça n'est rien de plus que du résumé de fiche Wikipédia, soyons tous honnêtes les uns avec les autres. Et du coup,
il y a aussi halluciné.
Oui, voilà, c'est ça. Mais quand j'ai vu la taille de la fiche Wikipédia, je me suis dit, oh, c'est trop long, c'est trop compliqué, je vais regarder les adaptations cinématographiques de Frankenstein. Et là, j'ai vu des trucs. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un quiz. C'est un petit quiz que je suis rouillé pour mon retour. Est-ce que vous êtes prêts ?
Vas-y, non. Balance. Pas du tout, mais vas-y.
Alors, donc, Marie Shelley a écrit son bouquin. Il est publié je sais plus quand.
Je t'interromps deux secondes. Attendez-vous à des gros blancs à chaque question parce que je suis nul à Frankenstein.
Non, mais vas-y, on va trouver.
C'est pas trop sur l'œuvre, mais plus sur tout ce qu'il y a autour de l'œuvre que ça a engendré.
Ok. Alors, le feu. Temps, à votre il avis, a peur du feu.
Autour de l'œuvre, il y a une couverture sur le livre.
Taisez-vous. Combien de temps a-t-il fallu entre la publication du roman et la première adaptation au théâtre ?
Au théâtre ?
Est-ce qu'il a fallu ?
Okay.
Oui. Est-ce qu'il a fallu 5 ans, 10 ans ou 30 ans ?
30.
10.
Non, il a fallu 5 ans avant la première adaptation au théâtre. Et alors,
ah, c'est un QCM, j'aime
truc
bien.
Truc très rigolo.
Moi aussi.
Petit fun fact. C'est que dans cette première réécriture de l'œuvre, je ne sais plus qui l'a écrit, mais il a viré plein de trucs, il a rajouté plein de trucs, et notamment des gros clichés qu'on associe maintenant à Frankenstein, notamment le fait que la créature est une grosse brute qui ne parle pas, et que le docteur Frankenstein est un assistant comique un peu difforme.
Ah oui, le fameux Igor.
Il y a un film d'animation qui s'appelle Igor, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
De quoi ?
Il y a un film d'animation qui s'appelle Igor, entièrement basé sur...
Ah oui, c'est vrai, et basé sur ce genre de personnage assistant de Docteur Fou.
En prochain Halloween.
Ensuite, le fait que la créature soit renommée à tort Frankenstein à la place de son créateur. Est-ce que ça vient d'un podcast radiophonique suédois de 1905 ? Est-ce que ça vient d'une adaptation théâtrale américaine de 1930 ou est-ce que ça vient d'une critique littéraire anglaise de 1972? Attention, celle-là, elle n'est pas facile.
La critique littéraire anglaise.
Ah, oh, le podcast.
Eh ben, vous êtes nuls, parce que c'était l'adaptation théâtrale américaine de 1930.
Ok, zéro.
Deuxième fun fact drôle, c'est que le film super connu Frankenstein de 1931, réalisé par James Whale avec Boris Karloff dans le rôle de Frankenstein, le super film en noir et blanc hyper iconique, en fait, il s'adapte, il part de cette pièce de théâtre qui, elle aussi, a fait pas mal de tort au bouquin parce qu'il ne reprend pas tout le roman. Il change plein d'éléments. Et en fait, c'est très drôle parce que c'est le film qui rend l'œuvre... qui a rendu l'œuvre hyper iconique et super connue en termes de cinématographie, et en même temps lui fait méga tort parce qu'elle ne reprend pas tous les éléments. Attention, celle-là, elle est velue. Vous n'êtes pas prêts.
Bon, elle est déjà à 0-0.
Ouais, c'est bon.
En termes d'adaptation de Frankenstein et son créateur, ou du docteur et de sa créature, au cinéma, il y en a des tétrachés.
Ouais.
De toutes les décennies, dans tous les sens, ouais, tous les styles, voilà. Lequel de ces films, cependant, n'a jamais existé? Alvin et les Chipmunks contre Frankenstein. Les expériences érotiques de Frankenstein.
100% ça existe.
Ou Frankenstein sur la lune.
Les Chipmunks, je pense.
Ouais, les Chipmunks, c'est trop gros.
Vous êtes décidément...
Il y a vraiment Alvin et les Chipmunks contre Frankenstein.
Oui. Et il n'y a pas Frankenstein sur la lune.
Voilà, c'est celui-là qui n'existe
mais
pas, Frankenstein
Les trucs érotiques, c'était
pas.
Sûr.
Et les trucs de...
Cela dit, par contre, il existe Frankenstein contre les monstres de l'espace. Il existe aussi un film japonais de Frankenstein contre des kaiju. Voilà, peut-être qu'il y a une référence dans le film.
Est-ce qu'il y a des... Frankenstein contre des tornades de requins?
Non, ça, j'ai pas creusé. Ah, mais il y a des trucs. J'ai vu des trailers de trucs. Franchement, je m'en suis pas remis cet après-midi. Et il y a une version française de 1984 avec Eddie Mitchell et Jean Rochefort. Avec Eddie Mitchell dans le rôle de la créature.
Ok, ça c'est tout de suite vu. C'est
ça,
vu.
Ça, c'était la dernière séance, non?
Et la petite dernière pour le fun. Lequel de ces super-héros est fortement inspiré de la créature de Frankenstein? Est-ce que c'est Hulk? Est-ce que c'est Aquaman? Ou est-ce que c'est Green Lantern?
Non, c'est Green Lantern, pardon. C'est Hulk.
C'est Hulk,
oui,
ouais.
C'est
bah,
Hulk.
Il me semble on en a eu une
inspiré de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et pendant mes recherches, j'ai vu aussi qu'il y avait un manga inspiré du roman de Mary Shelley. D'ailleurs, plutôt fidèle au roman, paraît-il.
Ah, bah des gens qui ont lu le livre.
Oui, voilà. Voilà, voilou, le petit quiz
cool,
de la reprise.
Merci. Moi, je vais faire un quiz aussi, mais ça va être très rapide et puis ça va être facile. Parce que je vous aime, contrairement à Sacha, apparemment.
Moi, vous m'avez ressuscité, j'ai chopé un rhume. Et pour voir en plus ce film nul.
moi, je vais vous parler des différentes références qu'il y a dans le film parce qu'il y en a un paquet. Je suis sûr que vous en avez noté vous-même en le regardant. Ouais. Mais je vais vous dire la référence et vous allez essayer de me dire où est-ce qu'elle se situe dans le film.
Donc, oh, putain.
Je vais commencer facilement.
Ah, yes, c'est fun ça.
Donc, il y a une référence évidente à Mary Shelley qui est.
Bah, la tortue.
La tortue qui s'appelle Shelley.
Oui.
Yes. Alors, référence référence au film La fiancée de Frankenstein, celle-là, elle est pas facile.
Si, c'est
pas
quand
la petite
la
avec
chienne,
son chat.
Elle lui renifle les,
c'est la...
les écrous là.
Non,
la chienne qui lui renifle les écrous et après ça lui fait des mèches.
Exactement,
de...
ça c'est la, c'est la même coiffure que.
Oui,
la fiancée de Frankenstein.
Con, en plus, dans l'hôtel Transylvania, sa femme elle a la même coiffure.
Et référence à Dracula, il y en a deux.
Bah, il y a le prof.
Alors non, c'est pas une référence directe, mais oui, c'est une référence.
Il y a un moment le plan avec l'ombre portée là qui fait référence à Nosferatu.
Ça, c'est Nosferatu.
Ouais.
Donc ça, c'était bien, t'as trouvé une référence à Nosferatu.
De quoi? Du monstre qui sort de la crypte, l'ombre portée?
Non, de Edgar, en fait. À un moment, il y a une ombre portée d'Edgar, il est tout crochu.
C'est comme dans Nosferatu.
Ouais, c'est comme dans Nosferatu. Référence à Dracula, il y en a deux. Donc il y a les parents qui regardent la télé.
Ah oui, après, il y a celle-là. Ouais.
Donc ils regardent une adaptation de Dracula.
Ah oui,
avec, avec Christopher Lee d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, tout simplement. Bah oui.
Et la deuxième, c'est le nom de la voisine qui s'appelle Elsa Van Helsing.
Oui, c'est vrai.
Donc Van Helsing, comme dans Dracula de Bram Stoker. Et Elsa, d'ailleurs, son prénom Elsa vient de Elsa Lanchester, qui est l'actrice qui joue la fiancée de Frankenstein.
Oh.
Ensuite, référence à Godzilla.
Bah, le kaiju.
Ouais, bah, le kaiju de Marie-Chelle.
Donc Godzilla et les kaijus, je vais m'en dire. Une référence à Les Oiseaux de Hitchcock.
Bah avec le chat chauve-souris là, non?
Non.
Attends.
Les oiseaux de
mais
Hitchcock.
Mais le bouquin?
Non,
la cabine téléphonique.
Oui, la cabine téléphonique, bien joué.
J'ai jamais quand vu le film, j'ai juste lu le livre.
Ah, j'ai pas vu le livre, okay. Mais quand le film, en fait, il se cache dans une cabine téléphonique à un moment, et là, les parents se cachent dans la cabine téléphonique.
Okay.
Référence aux Gremlins.
Et bah, la piscine avec les petits
monkeys.
Ah putain, mais dame, je suis nul.
Ils sont directement inspirés des Gremlins.
Ah oui, c'est vrai.
Référence à Batman. Et alors là, elle est obvious, mais en même temps, elle est tellement discrète.
C'est le projecteur dans la nuit, là.
Enfin, il y a une référence cool.
Bah, le cerf-volant, il balance pas un cerf-volant.
Je pensais que c'était ça aussi. Non,
ouais, elle balance un cerf-volant en forme de chauve-souris, ouais. Et il y a surtout, elle récupère la chauve-souris en fait sur son lit, là, morte. Et à ce moment-là, on entend le thème de Batman composé par Danny Elfman. Très légèrement.
Sérieux ?
Ouais. Et donc, ça, c'est très très fort. Et donc, Batman, réalisé par Tim Burton, etc. Jurassic Park, référence.
C'est pas quand. Putain, c'est dans le troisième acte ?
Oui.
Quand elle défonce le...
Ah mais non, le maire qui va se cacher dans les chiottes.
Exactement, le maire qui se cache dans les chiottes.
Je m'attendais à ce que le caillou bouffe les chiottes.
Ouais, ouais. Moi aussi, et du coup j'ai fait. Ah, c'est une référence à Jurassic Park, il va se faire bouffer, pas du tout. Référence à Edward aux mains d'argent. Attention, celle-là, elle est pas facile, elle est très discrète.
Ah putain, celle-là, elle est dure.
Bah si, tout simplement, le plan de l'establishing de la ville, avec écrit alors, New Holland,
y a ça...
et la montagne, c'est exactement comme Edward aux mains d'argent.
Voilà, il y a ça, et il y en a un autre avec le maire après. Qui taille ses haies.
Avec ah putain, ouais, ok. Voilà.
Mais oui, le premier plan, effectivement. Et la dernière, c'est une référence à Coraline et elle est toute petite.
À Coraline ?
Ouais.
Mais Coraline, t'es déjà sortie ?
Coraline ?
Ouais.
Il y a une clé qui traîne quelque part ?
Non.
Il y a une porte ?
Des boutons ?
Il y a une porte, des boutons ? Il y a une porte quelque part ?
Non, c'est quand. Alors, il y a une référence aussi à Beetlejuice au même moment, mais donc quand. Comment il s'appelle ? Victor va déterrer son chien, il y a un chat noir au moment et c'est exactement le même chat que dans Coraline.
D'accord, bah en fait, non, parce qu'il y avait. Moi j'ai vu ça parce qu'il y a déjà ce chat noir, il existe déjà dans le court-métrage 25 en fait.
Ok, bah voilà.
Okay.
Ouais, je pense que c'est. Ils se sont repris le truc et tout. Et aussi dans le cimetière, moi j'avais pas noté pour le quiz, mais il y a une référence directe à l'étrange Noël de Monsieur Jack parce qu'il y a la tombe du chien dans l'étrange Noël de Monsieur Jack dont j'ai perdu le nom.
Ah ouais
Zéro.
Comment zéro, voilà, merci.
Ah oui, zéro.
Ben voilà. Alors, moi, je vais rebondir là-dessus, justement, en parlant des petites théories farfelues de l'internet. Il y a une théorie qui dit que les trois films d'animation en stop-mo de Tim Burton sont tous liés et que le chien, en fait, il passe de l'état chien à l'état zombie, à l'état squelettique dans le Corpus Bride, dans les noces funèbres, à l'état de fantôme dans l'étrange Noël de Monsieur Jack.
Ah.
Et qu'en fait, on suit Victor, qui devient Victor adulte dans les noces funèbres et qui devient Jack Skellington. Dans le truc. C'est une théorie farfelue, mais voilà, apparemment les trois films sont connectés. Moi, je vois plus ce genre. Bah, c'est le même réalisateur, il a le même genre d'univers et tout. Après, il se fait pas chier pour les prénoms, tu vois. Parce que je crois que même dans Sleepy Hollow, le personnage principal s'appelle Victor, celui qui est joué par Johnny Depp.
Je sais pas.
Mais voilà.
Ok.
Et un petit kink avec le prénom Victor.
Ouais, oui. Ou alors il est nul pour trouver des prénoms.
Il y a une autre ref cool que j'ai bien aimé avec le moulin à la fin. Avec le moulin qui prend feu, les gens qui viennent attaquer le moulin avec des torches enflammées, c'est une référence au vieux film de Frankenstein, celui de 31 avec Boris Karloff.
Mmh. Et on le voit d'ailleurs dès le début, le moulin, il y a un espèce de foreshadowing bizarre dans la classe. Là.
Ouais.
Quand ils sont tous en mode. D'ailleurs, c'est trop drôle cette scène-là au tout début, j'ai oublié d'en parler. Mais
Ah oui, quand ils donnent toutes les raisons pour tous les éclairs.
Tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser dans le troisième film Harry Potter, là, quand le gamin il fait c'est un présage de mort, le Sinistros. Et j'étais là, mais ils sont tous possédés en fait, ces gamins. C'est un truc de fou. Il y a quoi dans l'eau dans cette ville ?
Et pas du tout, Victor, excusez-moi, il s'appelle.
C'est sur un cimetière indien.
Il s'appelle Ichabod Crane. Pas du tout, Victor, excusez-moi. Mmh.
Ouais, c'est Victor en ukrainien, quoi. C'est pareil.
Ouais, t'enlèves toutes les lettres, tu mets celle de Victor, paf, ça fait Victor.
Et d'ailleurs, il y en a plein des autres petites références. Vous avez lu le bouquin de Tim Burton, la petite BD
non,
là ?
Plein de références.
C'est comment il s'appelait ce bouquin ? C'était l'enfant qui s'est crevé les yeux avec des clous. Un truc comme ça.
Sympa.
Et en fait, c'est un recueil de poèmes qui faisait, donc de poèmes macabres, qui faisait avec ses dessins sur le côté. Et du coup, la petite fille avec le chat. Avec les deux grands yeux, en fait, c'est un personnage de cette BD-là qui en fait, elle hypnotise les gens dans la BD. Et basé là-dessus, sur cette BD-là, il y a toute une série en animation 2D avec tous ces personnages macabres et tout
Ah ouais,
ouais. Qui est cool, quoi. C'est basé sur le recueil de poèmes, quoi.
Cool. Okay.
J'ignorais totalement.
Voilà, voilà.
Cool. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur ce film?
Bon, alors je pense que...
Je suis content qu'on l'ait fait. C'est plus à faire. Cool.
C'était un bon choix de film d'Halloween, je pense. Mais c'est la fin de ce podcast. Non, pardon. On conclut. On va conclure. Je vais trop vite.
Ciao, salut, allez.
Ok, c'est déjà la fin de ce podcast, mais on a des recommandations comme d'habitude. Sacha.
Alors, moi je vais recommander un film avec Frankenstein. Un film de Mel Brooks, Frankenstein Jr. En gros, je sais pas si... Enfin, pour les gens qui ne connaissent pas Mel Brooks, c'est un réalisateur américain qui fait beaucoup de parodies et de films comiques, toujours un peu critiques sur la société américaine. Et là, c'est un film qui date de 1974, qui reprend du coup l'idée de Frankenstein et, et de la créature. C'est à mourir de rire. Je l'ai vu. En fait, il y a trois films sérieux sur Frankenstein. Il y a Frankenstein, suite de 31 avec Boris Karloff, là, le connu. Après, il y a La fiancée de Frankenstein, qui est la suite directe. Et après, il y en a un troisième, Le fils de Frankenstein. Et moi, je pensais regarder Le fils de Frankenstein, un film sérieux, en lançant Frankenstein Junior.
C'est récent.
Comédie.
Mais, c'est de quelle année
Lequel?
Frankenstein Junior.
De Mel Brooks.
Frankenstein Junior de Mel Brooks, c'est 1974.
Okay. D'accord, ok.
Et du coup, je me suis retrouvé comme un con à regarder un truc qui était... c'est à se pisser dessus de rire. C'est, voilà, c'est, je le recommande très chaudement. Ça passe crème, même s'il est vieux, il y a des blagues qui sont... qui ne peuvent pas mourir, qui ne peuvent pas vieillir, qui ne peuvent pas pourrir. Il est très drôle.
Okay.
Cool. Robin.
Moi, je vais vous recommander une série animée qui est extrêmement peu connue. Alors je pense que s'il y a des Français qui nous écoutent, ils vont sûrement réagir au nom de François Descraques. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Pas du tout. Donc c'est l'auteur de la websérie Le Visiteur du Futur, et en fait donc lui il a créé un site qui s'appelle French Nerd, et là dessus il y avait plein de programmes qui passaient, et à un moment il a créé un programme en animation 2D. Donc l'animation n'est pas exceptionnelle, mais c'est surtout la manière dont c'est écrit et raconté qui est important, qui s'appelle Les Contes de Nina. Et c'est des petites, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, elles sont cool. C'est des petites histoires vraiment macabres qui sont contées avec une petite musique douce derrière, en poème, en prose, et en rime du coup. Et voilà, moi, celui qui me vient à l'esprit, là, le premier, c'est un enfant en fait qui est gaucher et on le force à être droitier. Du coup, le prof, il décide de lui attacher sa main gauche dans le bras pour qu'il écrive avec la main droite. Et puis en fait, finalement, il décide d'aller faire une opération et il lui couse une main droite à la place de son poignet gauche. Et il y a plein d'histoires comme ça. Et en fait, à chaque fois, tu sais pas, tu t'essaies de deviner ça va être quoi la chute. Parce que tout avance, ou tu vois, tu en as une aussi où c'est une petite fille qui est un peu ronde et qu'elle se trouve trop grosse. Alors, elle décide de perdre du poids et en fait, elle se coupe allègrement avec un schlass. La peau du ventre, la peau des cuisses, la peau du bras, et c'est tout écrit en pose et tout ça. Donc moi ça voilà, il y a vraiment cette vibe macabre et tout ça qui traîne là-dedans sous forme de conte, voilà.
Okay.
Les contes de Nina.
Après la liposuction, la liposition.
Oh yes, elle est bonne, on la garde. Moi je vais vous recommander.
Et toi, Jean, c'est
j'avais
quoi
pas
que
vraiment de
quel film t'as fait penser que tu veux nous recommander?
Bah en fait j'en avais aucune.
Pour te couper la parole.
C'est chiant. Hein. j'en avais aucune jusqu'à ce que j'avais pas quoi regarder l'autre soir. Je suis allé sur Netflix et j'ai scrollé pendant à peu près 1h30. classique.
Bah à la base.
3h du matin du coup.
Et là je suis tombé sur un film que j'avais pas vu depuis longtemps, qui est un film très connu, donc ça va être une reco un peu de merde parce que plein de gens l'ont déjà vu. Et je l'ai revu, et c'est toujours aussi génial. Et ben, ce film, c'est The Thing de Carpenter, en fait.
Ah.
Et je savais pas qu'il était sur Netflix. Et oui, je sais,
mais
ça.
PCR
positif.
J'en profite pour recommander aussi
la vidéo de
Mosinor, qui est très drôle, avec The Thing et avec Kurt Russell. Mais je l'ai revu et j'étais là, mais ah putain, j'avais. Ça
et
fait
il,
très longtemps.
Il est vraiment cool.
Ça fait très longtemps que j'avais pas vu ce film, et putain, j'étais en méga kiff, quoi. Donc voilà, si vous l'avez jamais vu, ou même si vous l'avez déjà vu et comme moi, rematez The Thing, c'est génial.
Attends, on veut des vues. Je vous recommande Squid Game.
J'ai toujours pas vu. Est-ce que c'est le truc où ils mangent des calamars, c'est ça?
Oui, c'est exactement ça. Si vous avez mangé le plus de calamars crus.
C'est des jeux avec des calamars. Il faut pas que les manger.
Ah. Il les lance, c'est ça ?
On va s'arrêter là ?
Oui.
Ok, c'était les recommandations. Alors, comme on n'a plus de films, parce que pour la prochaine fois, et qu'il faut qu'on ait des films, on va lancer un dé. Est-ce qu'on a un dé ?
J'ai un dé de 12.
Un dé de 12.
Ah, vous m'auriez prévenu, j'aurais eu plein de dés.
J'ai 6 films à tirer au sort. Ouais, voilà.
T'as combien de films à tirer au sort ?
On a 6. On va en tirer 2 parmi 6. Les 6.
Attends, bouge pas, j'ai mon générateur de dés, puisqu'un rôliste a toujours des dés sur lui.
J'ai.
Ah bon, oh bah, monsieur, monsieur.
On est parti ? Je roule.
Vas-y, roule.
6.
Rango.
Oh yes.
Ok, je roule. 4.
Calamity, ça c'est cool.
Je roule.
Quoi ?
Calamity. Le dernier
3,
film de...
On a besoin de 3 ? On a besoin de 3 ou on a besoin de 2 ?
Ah si, il est trop cool.
On a besoin de 2. Bah ça fait 2.
On a 2, ouais, c'est beau. Voilà. Alors, Rango et Calamity, on est bien.
Cool, ok. Rango et Calamity. Donc, on
tu
vous
peux
parlera...
en tirer d'avance.
On les choisira nous-mêmes, c'est bon. On vous parlera donc de Rango et de Calamity, et puis probablement d'un épisode de Noël, on verra où
oui.
est-ce qu'on en est.
Ah, c'est marrant, ça fait 2 épisodes western en plus.
C'est vrai,
oh,
putain.
Putain.
Ok, il y a pas un truc.
En anglais, c'est Tumbleweed.
Ouais. Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés, et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation.
Bisous.
Bisous.